Aristote, Morale à Nicomaque, livre 2, Théorie de la vertu. Chapitre 1er, Sommaire. De la distinction des vertus en vertu intellectuelle et vertu morale. La vertu ne se forme que par l'habitude. La nature ne nous donne que des dispositions que nous convertissons en qualités précises et déterminées par l'emploi que nous en faisons. C'est en faisant qu'on apprend à bien faire. Importance souveraine des habitudes. Il faut en contracter de bonnes dès la plus tendre enfance. Paragraphe 1. La vertu étant de deux espèces, l'une intellectuelle et l'autre morale, la vertu intellectuelle résulte presque toujours d'un enseignement auquel elle doit son origine et ses développements. Et de là vient qu'elle a besoin d'expérience et de temps. Quant à la vertu morale, elle naît plus particulièrement de l'habitude et des mœurs. Et c'est du mot même de mœurs que, par un léger changement, elle a reçu le nom de morale qu'elle porte. Paragraphe 2. Il n'en faut pas davantage pour montrer clairement qu'il n'est pas une seule des vertus morales qui soit en nous naturellement. Jamais les choses de la nature ne peuvent, par l'effet de l'habitude, devenir autres qu'elles ne sont. Par exemple, la pierre, qui naturellement se précipite en bas, ne pourrait prendre l'habitude de monter. Essaya-t-on en la lançant 1 million de fois de lui imprimer cette habitude? Le feu ne se portera pas davantage en bas, et il n'est pas un seul corps qui puisse perdre la propriété qu'il tient de la nature pour contracter une habitude différente. Paragraphe 3. Ainsi, les vertus ne sont pas en nous par l'action seule de la nature, et elles n'y sont pas davantage contre le vœu de la nature. Mais la nature nous en a rendus susceptibles, et c'est l'habitude qui les développe et les achève en nous. Paragraphe 4. De plus, pour toutes les facultés que nous possédons naturellement, nous n'apportons d'abord que le simple pouvoir de nous en servir, et ce n'est que plus tard que nous produisons les actes qui en sortent. On peut bien voir un frappant exemple de ceci dans les sens. Ce n'est pas à force de voir, à force d'entendre, que nous acquérons le sens de la vue et de l'ouïe. Tout au contraire, nous nous sommes servis de ces sens parce que nous les avions, et nous ne les avons pas du tout parce que nous nous en sommes servis. Loin de là pour les vertus, nous ne les acquérons qu'après les avoir préalablement pratiquées. Il en est pour elles comme pour tous les autres arts. Car dans les choses qu'on ne peut faire qu'après les avoir apprises, nous ne les apprenons qu'en les faisant. Ainsi, on devient architecte en construisant, on devient musicien en faisant de la musique. Tout de même, on devient juste en pratiquant la justice, sage en cultivant la sagesse, courageux en exerçant le courage. Paragraphe 5. Ce qui se passe dans le gouvernement des États le prouve bien. Les législateurs ne rendent les citoyens vertueux qu'en les y habituant. Telle est certainement la volonté bien arrêtée de tout législateur. Ceux qui ne remplissent pas comme il faut cette tâche manquent le but qu'ils se proposent. Et c'est là, précisément, ce qui fait toute la différence d'un bon gouvernement et d'un mauvais. Paragraphe 6. Toute vertu, quelle qu'elle soit, se forme et se détruit par les mêmes moyens, par les mêmes causes, absolument comme on se forme et comme on échoue dans tous les arts. C'est en jouant de la cithare, avons-nous dit, que se forment les bons et les mauvais artistes. C'est par des travaux analogues que se forment les architectes, et sans exception, tous ceux qui exercent un art quelconque. Si l'architecte construit bien, il est un bon architecte. Il en est un mauvais quand il construit mal. S'il n'en était pas ainsi, on n'aurait jamais besoin de maître qui montrât à bien faire, et tous les artistes seraient pour toujours, du premier coup, ou bons ou mauvais. Paragraphe 7. Il en est absolument de même pour les vertus. C'est par notre conduite dans les 13 actions de tout ordre, qui interviennent entre les hommes, que nous nous montrons les uns équitables, les autres iniques. C'est par notre conduite dans les circonstances périlleuses et en y contractant les habitudes de la poltronnerie ou de la fermeté que nous devenons les uns braves, les autres lâches. Il en est de même encore pour les effets de nos passions ou de nos entraînements. Parmi les hommes, les uns sont modérés et doux, les autres sont intempérants et excessifs. Selon que ceux-ci se comporte de telle façon dans ces circonstances et que cela se comporte d'une façon contraire, en un mot, les qualités ne proviennent que de la répétition fréquente des mêmes actes. Voilà comment il faut s'attacher scrupuleusement à ne faire que des actes d'un certain genre, car les qualités se forment sur les différences mêmes de ces actes et les suivent. Ce n'est donc pas une chose de petite importance que de contracter dès l'enfance et aussitôt que possible telle ou telle habitude. C'est au contraire un point de très grande importance, ou pour mieux dire, c'est là tout. Chapitre 2. Sommaire. Un traité de morale ne doit pas être une pure théorie. Il doit être surtout pratique, quelle que soit d'ailleurs l'indécision inévitable des détails dans lesquels il doit entrer. Nécessité de la modération. Tout excès en trop ou en moins ruine la vertu et la sagesse. Paragraphe 1. Une chose qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que le présent traité n'est pas de pure théorie, comme peuvent l'être tant d'autres. Ce n'est pas pour savoir ce que c'est que la vertu que nous nous livrons à des recherches. C'est pour apprendre à devenir vertueux et bon, car autrement, cette étude serait profondément inutile. Il est donc nécessaire que nous considérions tout ce qui se rapporte aux actions pour apprendre à les accomplir, car ce sont elles qui disposent souverainement de notre caractère et de l'acquisition de nos qualités, comme nous venons de le dire. Paragraphe 2. C'est un principe communément admis qu'il faut agir suivant la droite raison. Acceptons aussi ce principe, nous réservons d'expliquer plus tard ce que c'est que la droite raison et quel est son rapport au reste des vertus. Paragraphe 3. Convenons bien d'abord de ce point, à savoir que toute discussion qui s'applique aux actions de l'homme ne peut être jamais qu'une esquisse assez vague et sans précision, ainsi que nous l'avons déjà fait observer au début, parce qu'on ne peut exiger de rigueur dans les raisonnements qu'autant qu'en comporte la matière à laquelle il s'applique. Or, les actions et les intérêts des hommes ne peuvent recevoir aucune prescription immuable et précise, pas plus que les conditions diverses de la santé. Paragraphe 4. Mais si l'étude générale des actions humaines présente ses inconvénients, à plus forte raison, l'étude spéciale de chacune des actions, en particulier, présentera-t-elle bien moins de précision encore, car elle ne tombe ni dans le domaine d'un art régulier, ni même d'aucun précepte formel. Mais quand on agit, c'est une nécessité constante de se guider sur les circonstances dans lesquelles on est placé, absolument comme on le fait dans l'art de la médecine et dans l'art de la navigation. Paragraphe 5. Du reste, quelle que soit la trop réelle difficulté de l'étude que nous tentons, Il n'en faut pas moins essayer d'être utile en l'accomplissant. Paragraphe 6. D'abord, on doit bien se dire que les choses de l'ordre de celles dont nous nous occupons risquent également d'être compromises par tout excès, soit en trop, soit en moins. Et pour nous servir d'exemple visible, qui puisse faire bien comprendre des choses obscures et cachées, il en est ici, comme nous le voyons, pour la force du corps et pour la santé. La violence démesurée des exercices, ou le défaut d'exercice, ruine également la force. Il en est encore ainsi pour le boire et le manger. Des aliments en trop grande ou en trop petite quantité détruisent la santé, tandis qu'au contraire, pris en une juste mesure, ils la donnent, la croissent et l'entretiennent. Paragraphe 7. Il en est absolument de même pour la tempérance, le courage et toutes les autres vertus. L'homme qui craint tout, qui fuit tout et qui ne sait rien supporter est un lâche. Celui qui ne craint jamais rien et qui affronte tous les dangers est un téméraire. De même, celui qui jouit de tous les plaisirs et qui ne s'en refuse aucun est intempérant. Et celui qui les fuit tous sans exception, comme les sauvages habitants des champs, est en quelque sorte un être insensible. C'est que la tempérance et le courage se perdent également soit par l'excès, soit par le défaut, et qu'ils ne subsistent que dans la modération. Paragraphe 8. Non seulement l'origine, les développements et la perte de ces qualités viennent des mêmes causes et sont soumises aux mêmes influences. Mais de plus, les actions que ces qualités inspirent seront faites par les mêmes individus qui ont ces qualités. Éclaircissons ceci par l'exemple de choses plus palpables et plus visibles et citons de nouveau la force du corps. Elle vient et de l'abondance de la nourriture qu'on prend et des fatigues répétées qu'on endure. Et réciproquement, l'homme ainsi fortifié supporte beaucoup mieux toutes ces épreuves. Paragraphe 9. Le même phénomène se répète pour les vertus. C'est à la condition de nous abstenir des plaisirs que nous devenons tempérants. Et, une fois que nous le sommes devenus, nous pouvons nous abstenir des plaisirs bien plus aisément qu'auparavant. Même observation pour le courage. En nous habituant à mépriser tous les périls et à les affronter, nous devenons courageux. Et, une fois que nous le sommes, nous pouvons bien mieux supporter les dangers sans la moindre crainte. Chapitre 3. Sommaire. Pour bien juger des qualités qu'on possède, il faut le regarder au sentiment de plaisir et de peine qu'on éprouve après avoir agi. L'homme de bien se plaît à bien faire, le méchant à faire mal. Maxime de Platon. Immense influence du plaisir et de la peine sur la destinée humaine et sur la vertu. L'usage bon ou mauvais du plaisir ou de la peine distingue profondément les hommes entre eux. La morale et la politique doivent s'occuper surtout des plaisirs et des peines. C'est aussi ce dont s'occupera le présent traité. Paragraphe 1. Un signe manifeste des qualités que nous contractons, c'est le plaisir ou la peine qui se joint à nos actions et qui les suit. L'homme qui s'abstient des plaisirs du corps et qui se plaît à cette réserve même est tempérant. Celui qui ne la supporte qu'à regret a de l'intempérance. L'homme qui affronte les dangers et qui s'y plaît, ou du moins n'en est pas troublé, est un homme courageux. Celui qui s'en trouble est un lâche. C'est qu'en effet, la vertu morale se rapporte aux peines et aux plaisirs, puisque c'est la recherche du plaisir qui nous pousse au mal, et la crainte de la douleur qui nous empêche de faire le bien. Paragraphe 2. Voilà pourquoi il faut dès la première enfance, comme le dit si bien Platon, qu'on nous mène de manière à ce que nous placions nos joies et nos douleurs dans les choses où il convient de les placer. Et c'est en cela que consiste la bonne éducation. Paragraphe 3. De plus, les vertus ne se manifestent jamais que par des actes et des affections. Or, il n'est pas un acte, il n'est pas une affection qui n'ait pour conséquence ou le plaisir ou la peine. Et ceci est une preuve nouvelle que la vertu se rapporte uniquement à nos peines et à nos plaisirs. Paragraphe 4. C'est encore ce que témoignent assez les châtiments qui parfois suivent nos actions. Ces châtiments sont en quelque sorte des remèdes, et les remèdes n'agissent ordinairement et dans le cours naturel des choses que par les contraires. Paragraphe 5. Nous pouvons répéter en outre ce que nous venons de dire. Toute qualité de l'âme est, par sa vraie nature, en rapport avec les choses et ne concerne que les choses qui la rendent naturellement meilleure ou pire. Or, les qualités de l'âme ne se pervertissent que par le plaisir ou la peine, quand on poursuit l'une ou qu'on fuit l'autre, alors qu'il ne le faut pas et sans apprécier ni l'occasion où on les prend, ni la manière dont il faut les prendre, ou en commettant tant d'autres fautes analogues qu'il est bien facile à la raison d'imaginer. Voilà comment on a pu définir les vertus des états de l'âme où elle est sans affection et dans un complet repos. Mais cette définition n'est pas très juste, parce qu'elle est présentée d'une manière trop absolue, et qu'on n'a pas le soin d'y ajouter certaines conditions et de dire qu'il faut ou qu'il ne faut pas, ou bien quand il faut, et telles autres modifications qu'on peut concevoir facilement. Paragraphe 6. On doit donc poser en principe que la vertu est ce qui nous dispose à l'égard des peines et des plaisirs de telle façon que notre conduite soit la meilleure possible. Le vice est précisément le contraire. Paragraphe 7. Voici une observation qui nous fera comprendre plus clairement encore toutes celles qui précèdent. Il y a trois choses à rechercher. Il y en a également trois à fuir. À rechercher le bien, l'utile, l'agréable. À fuir leurs trois contraires, le mal, le nuisible et le désagréable. À l'égard de toutes ces choses, l'homme vertueux sait se bien conduire et suivre le droit chemin. Le méchant n'y commet que des fautes. Il en commet surtout en ce qui regarde le plaisir. Car d'abord, le plaisir est un sentiment commun à tous les êtres animés. Et de plus, il se retrouve à la suite de tous les actes laissés à notre préférence et à notre libre choix, puisque le bien même et l'intérêt peuvent revêtir aussi l'apparence du plaisir. Paragraphe 8. Ajoutons que depuis notre plus tendre enfance, dès cet âge où nous bégayons à peine, le plaisir a été nourri en quelque sorte et s'est développé avec nous. Il serait donc bien difficile de nous défaire d'un sentiment qui est entré si profondément dans notre vie et qui en a pris toutes les couleurs. Bien que, selon les individus, le plaisir et la peine soient une règle qui dirigent plus ou moins complètement leur conduite. Paragraphe 9. C'est là ce qui fait que nécessairement, tout le traité qui va suivre doit porter sur ces deux affections, car ce n'est pas une petite chose, en ce qui concerne nos actions, que de savoir se réjouir ou s'affliger, bien ou mal. Paragraphe 10. Autre remarque. Il est encore plus difficile de combattre le plaisir que de combattre la colère, comme le dit Héraclite. Or, l'art et la vertu s'appliquent toujours de préférence à ce qui est le plus difficile, puisque dans les choses qui sont plus difficiles, le bien acquiert un plus haut prix. Ceci même est une raison de plus pour que la vertu et la politique doivent mettre l'une et l'autre tous leurs soins à l'étude des plaisirs et des peines. Car celui qui sait bien user de ces deux sentiments sera bon, et le méchant sera celui qui en usera mal. Paragraphe 11. Ainsi donc, nous avons prouvé que la vertu ne s'occupe au fond que des plaisirs et des peines, qu'elle s'accroît par les causes qui la font naître, qu'elle se détruit par ces mêmes causes quand leur direction vient à changer, et qu'elle agit et s'exerce sur ses sentiments mêmes d'où elle est née. Tels sont les principes que nous venons de poser. Chapitre 4. Sommaire. Explication de ce principe qu'on devient vertueux en faisant des actes de vertu. Différence entre la vertu et les arts ordinaires. Trois conditions requises pour qu'un acte soit vraiment vertueux. Le savoir, la volonté, la constance. La première condition est la moins importante. Étrange manière du vulgaire des hommes de faire de la philosophie et de la vertu. Ils croient que les paroles y suffisent. Paragraphe 1. On pourrait demander ce que nous entendons en disant qu'on doit, pour devenir juste, pratiquer la justice, et pour devenir tempérant, pratiquer la tempérance. Car si l'on fait des actes justes, des actes de tempérance, c'est qu'on est déjà juste et tempérant. De même que si l'on applique les règles de la grammaire et de la musique, c'est qu'on est grammairien et musicien préalablement. Paragraphe 2. Mais n'est-il pas plus vrai de dire qu'il n'en est pas ainsi, même pour les arts vulgaires? Ne peut-on pas aussi, par exemple, faire quelque chose de très correct en grammaire, par hasard, ou avec le secours et les suggestions d'autrui? On ne sera donc vraiment grammairien que si l'on a fait quelque chose de grammatical et si on l'a fait grammaticalement, c'est-à-dire selon les lois de la grammaire qu'on sait et qu'on possède soi-même. Paragraphe 3. Il est, de plus, une différence qu'il convient de signaler entre les vertus et les arts. Les choses que produisent les arts portent la perfection qui leur est propre en elles-mêmes. Et il suffit par conséquent qu'elles soient d'une certaine façon. Mais les actes que produisent les vertus ne sont pas justes et tempérants uniquement parce qu'ils sont eux-mêmes d'une certaine façon. Il faut en outre que celui qui agit soit, au moment même où il agit, dans une certaine disposition morale. La première condition, c'est qu'il sache ce qu'il fait. La seconde, qu'il le veuille par un choix réfléchi, et qu'il veuille les actes qu'il produit à cause de ses actes eux-mêmes. Enfin, la troisième, c'est qu'en agissant, il agisse avec une résolution ferme et inébranlable de ne jamais faire autrement. Dans les autres arts, on ne tient aucun compte de toutes ces conditions, si ce n'est de bien savoir ce qu'on fait. Au contraire, en ce qui concerne les vertus, savoir est un point de peu de valeur ou même sans valeur, tandis que les deux autres conditions y sont non pas de peu d'importance, mais de toute importance, car on ne conquiert les vertus que par la constante répétition des actes de justice, de tempérance, etc. Paragraphe 4. Ainsi, Des actes peuvent être appelés justes et tempérants quand ils sont de telle nature qu'un homme tempérant et juste pourrait les faire. Mais l'homme tempérant et juste n'est pas simplement celui qui les fait, c'est celui qui les fait comme les font les gens vraiment justes et tempérants. Paragraphe 5. On a donc bien raison de dire que l'on devient juste en faisant des actions justes, tempérant en faisant des actions de tempérance, et que si l'on ne pratique point des actes de ce genre, il est impossible à qui que ce soit de devenir jamais vertueux. Paragraphe 6. Mais le vulgaire des hommes ne pratique pas ces actions, et se réfugiant dans de vaines paroles, ils croient faire de la philosophie et s'imaginent que par cette méthode, ils acquièrent une véritable vertu. C'est à peu près ce que font ces malades qui écoutent bien soigneusement les médecins, mais qui ne font rien de ce qu'on leur ordonne. Mais de même que les uns ne peuvent guère avoir un corps bien portant en se soignant de cette façon, de même, les autres n'auront jamais l'âme bien saine en philosophant ainsi. Chapitre 5. Sommaire. Théorie générale de la vertu. Il y a trois éléments principaux dans l'âme: les passions, les facultés et les habitudes. Définition des passions et des facultés. Les vertus et les vices ne sont pas des passions. Ce ne sont pas davantage des facultés, ce sont des habitudes. Paragraphe 1. Tous ces points, une fois fixés, nous allons rechercher ce que c'est que la vertu. Comme il n'y a dans l'âme que trois éléments, les passions ou affections, les facultés et les qualités acquises ou habitudes, il faut que la vertu soit une de ces trois choses. Paragraphe 2. J'appelle passion ou affection le désir, la colère, la crainte, la hardiesse, l'envie, la joie, l'amitié, la haine, le regret, la jalousie, la pitié. En un mot, tous les sentiments qui entraînent à leur suite peine ou plaisir. J'appelle faculté les puissances qui font qu'on dit de nous que nous sommes capables d'éprouver ces passions. Par exemple, que nous sommes capables de nous mettre en colère, de nous affliger, de nous apitoyer. Enfin, j'entends par qualités acquises ou habitudes la disposition morale, bonne ou mauvaise, où nous sommes pour ressentir toutes ces passions. Ainsi, par exemple, pour la passion de la colère. Si nous la ressentons trop violemment ou trop mollement, c'est une disposition mauvaise. Si nous la ressentons dans une juste mesure, c'est une disposition qui est bonne. On pourrait faire une remarque semblable pour tout le reste. Paragraphe 3. Il suit de là que ni les vertus ni les vices ne sont pas à proprement dire des passions. D'abord, en réalité, nous ne sommes pas appelés bons ou mauvais suivant nos passions, mais nous ne le sommes que d'après nos vertus et nos vices. En second lieu, on n'est ni loué ni blâmé à cause des passions que l'on a. Ainsi, on ne loue pas et l'on ne blâme pas davantage celui qui a peur ou celui qui se met en colère d'une manière générale et absolue. On ne blâme que celui qui éprouve ses sentiments d'une certaine façon, tandis qu'au contraire, nous sommes directement loués et blâmés selon les vertus et les vices que nous montrons. Paragraphe 4. De plus, les sentiments de la colère et de la crainte ne dépendent point de notre choix et de notre volonté, tandis que les vertus sont des volontés bien réfléchies, ou du moins n'existe pas sans l'action de notre volonté et de notre préférence. Ajoutons encore que pour les passions, on doit dire que nous en sommes émus. Tandis qu'on ne dit pas pour les vertus et les vices que nous soyons dans une émotion quelconque. On dit seulement que nous avons une certaine disposition morale. Paragraphe 5. Par ces motifs, les vertus ne sont pas non plus de simples facultés, car on ne dit pas de nous que nous soyons vertueux ou méchants par cela seul que nous avons la faculté d'éprouver des affections, de même que ce n'est pas non plus un motif suffisant pour qu'on nous loue ou qu'on nous blâme. En outre, c'est la nature qui nous donne la faculté, la possibilité d'être bon ou vicieux. Mais ce n'est pas par elle que nous devenons l'un ou l'autre, ainsi que nous venons de le dire un peu plus haut. Paragraphe 6. Concluons donc que si les vertus ne sont ni des passions ni des facultés, il reste qu'elles soient des habitudes ou qualités. Et tout ceci nous montre nettement ce qu'est la vertu, généralement parlant. Chapitre 6. Sommaire. De la nature de la vertu. Elle est, pour une chose quelconque, la qualité qui complète et achève cette chose. Vertu de l'œil, vertu du cheval. Définition du milieu en mathématiques. Le milieu moral est plus difficile à trouver. Le milieu varie individuellement pour chacun de nous. Excès ou défaut dans les sentiments et les actes de l'homme. La vertu dépend de notre volonté. Elle est en général un milieu entre deux vices, l'un par excès, l'autre par défaut. Exception. Paragraphe 1. Il ne faut pas se contenter de dire, comme on le fait ici, que la vertu est une habitude ou manière d'être. Il faut dire aussi quelle manière d'être elle est spécialement. Paragraphe 2. Commençons par établir que toute vertu est pour la chose dont elle est la vertu, ce qui tout à la fois en complète la bonne disposition et lui assure l'exécution parfaite de l'œuvre qui lui est propre. Ainsi, par exemple, la vertu de l'œil fait que l'œil est bon et qu'il accomplit comme il faut sa fonction, car c'est grâce à la vertu de l'œil que l'on voit bien. Même observation, si l'on veut, pour la vertu du cheval. C'est elle qui fait le bon cheval. Le cheval également propre à fournir une course rapide, à porter son cavalier, à soutenir le choc des ennemis. Paragraphe 3. S'il en est bien ainsi pour toute chose, la vertu dans l'homme serait cette manière d'être morale qui le rend un homme bon, un homme de bien, et grâce à laquelle il saura bien accomplir l'œuvre qui lui est propre. Paragraphe 4. Nous avons déjà dit comment l'homme peut atteindre ce but. Mais notre pensée deviendra plus évidente encore quand nous aurons vu quelle est la véritable nature de la vertu. Paragraphe 5. Dans toute quantité continue et divisible, on peut distinguer trois choses. D'abord le plus, puis le moins, et enfin l'égal. Et ces distinctions peuvent être faites ou relativement à l'objet lui-même ou relativement à nous. L'égal est une sorte d'intermédiaire entre l'excès en plus et le défaut en moins. Le milieu, quand il s'agit d'une chose, est le point qui se trouve à égale distance de l'une et l'autre des deux extrémités, et qui est un et le même dans tous les cas. Mais quand il s'agit de l'homme, quand il s'agit de nous, le milieu, c'est ce qui ne pèche ni par excès ni par défaut. Et cette égale mesure est bien loin d'être une pour tous les hommes, ni la même pour tous. Paragraphe 6. Je prends un exemple. En supposant que le nombre 10 représente une trop grande quantité et 2 une trop petite, 6 sera le milieu intermédiaire relativement à la chose qu'on mesure, car 6 surpasse 2 d'une somme égale à celle dont il est surpassé lui-même par 10. Paragraphe 7. C'est bien là le vrai milieu, suivant la proportion que constate l'arithmétique, c'est-à-dire le nombre. Mais ce n'est pas du tout ainsi qu'il faut prendre le milieu relativement à nous. En effet, parce que pour tel homme, manger 10 livres d'aliments est trop manger, et qu'en manger 2 est pour lui manger trop peu, ce n'est pas une raison pour que le médecin doive prescrire à tout le monde de manger 6 livres de nourriture. Car 6 livres peuvent être pour celui qui doit les prendre ou une alimentation énorme ou une alimentation insuffisante. Pour Milon, c'est très peu. C'est au contraire beaucoup pour celui qui commence à faire de la gymnastique. Ce qu'on dit ici des aliments pourrait se dire également pour les fatigues de la course et de la lutte. Paragraphe 8. Ainsi donc, tout homme instruit et raisonnable s'efforcera d'éviter les excès de tout genre, soit en trop, soit en moins. Il ne cherche que le juste milieu et le préfère aux extrêmes. Mais ce n'est pas simplement le milieu de la chose même, c'est le milieu relativement à nous. Paragraphe 9. C'est grâce à cette sage modération que toute science accomplit parfaitement son objet propre, ne perdant jamais de vue ce milieu et ramenant toutes ses œuvres à ce point unique. Voilà pourquoi l'on dit souvent, en parlant d'ouvrages bien faits quand on veut les louer, qu'on ne saurait en rien retrancher, qu'on ne saurait y rien rajouter. Comme pour dire que si l'excès et le défaut détruisent la perfection, le juste milieu seul peut l'assurer. C'est là le but où les bons artistes, nous le répétons, ont toujours leur regard fixé dans leurs travaux. Et la vertu, qui est 1000 fois plus précise et 1000 fois meilleure qu'aucun art, vise sans cesse, comme la nature elle-même, à ce parfait milieu. Paragraphe 10. J'entends parler ici de la vertu morale, car c'est elle qui concerne les passions et les actes de l'homme. Et c'est dans nos actes et dans nos passions qu'il y a soit excès, soit défaut, soit un sage milieu. Ainsi, par exemple, dans les sentiments de la peur ou de l'audace, du désir et de l'aversion, de la colère et de la pitié, en un mot, dans les sentiments de peine ou de plaisir, il y a du plus et du moins. Et des deux parts, ces sentiments opposés ne sont pas bons. Paragraphe 11. Mais savoir les éprouver comme il convient, selon les circonstances, selon les choses, selon les personnes, selon la cause, et savoir conserver la vraie mesure, c'est là le milieu, c'est là la perfection qui ne se trouve que dans la vertu. Paragraphe 12. Il en est pour les actes absolument comme pour les passions. Elles peuvent avoir ou excès ou défaut, ou rencontrer un juste milieu. Or, la vertu se manifeste dans les passions et dans les actes. Et pour les passions et les actes, l'excès en trop est une faute, l'excès en moins est également blâmable. Le milieu, seul, est digne de louange, parce que seul, il est dans l'exacte et droite mesure. Et ces deux conditions sont le privilège de la vertu. Paragraphe 13. Ainsi donc, la vertu est une sorte de milieu, puisque le milieu est le but qu'elle recherche sans cesse. Paragraphe 14. De plus, on peut se mal conduire de 1000 manières différentes, car le mal est de l'infini, comme l'ont si bien représenté les pythagoriciens. Mais le bien est du fini, puisqu'on ne peut se bien conduire que d'une seule manière. Voilà comment le mal est si facile et comment le bien est si difficile au contraire, parce qu'en effet, il est facile de manquer le but et difficile de l'atteindre. Voilà aussi pourquoi l'excès et le défaut appartiennent ensemble au vice, tandis que le seul milieu appartient à la vertu. On est bon d'un seul genre, on est méchant de mille. Paragraphe 15. Ainsi donc, la vertu est une habitude, une qualité qui dépend de notre volonté, consistant dans ce milieu qui est relatif à nous et qui est réglé par la raison, comme le réglerait l'homme vraiment sage. Elle est un milieu entre deux vices, l'un par excès, l'autre par défaut. Et comme les vices consistent les uns en ce qu'ils dépassent la mesure qu'il faut garder, les autres en ce qu'ils restent en dessous de cette mesure, soit pour nos actions, soit pour nos sentiments, la vertu consiste au contraire à trouver le milieu pour les uns et pour les autres, et à s'y tenir en le préférant. Paragraphe 17. Voilà pourquoi la vertu, prise dans son essence et au point de vue de la définition qui exprime ce qu'elle est, doit être regardée comme un milieu. Mais relativement à la perfection et au bien, la vertu est un extrême et un sommet. Paragraphe 18. Du reste, il faut bien dire que toute action, toute passion indistinctement n'est pas susceptible de ce milieu. Il y a telle action, telle passion qui emporte, aussitôt qu'on en prononce le nom, l'idée du mal et du vice. Ainsi, la malveillance, ou disposition à se réjouir du mal d'autrui, l'impudence, l'envie, et en fait d'action, l'adultère, le vol, l'assassinat. Car toutes ces choses, et toutes celles qui leur ressemblent, sont déclarées mauvaises et criminelles uniquement par le caractère affreux qu'elles offrent. Et ce n'est ni à cause de leur excès, ni à cause de leurs défauts. Il n'y a donc jamais dans ces choses moyen de bien faire. On n'y peut commettre que des fautes. Il n'y a pas, dans les cas de ce genre, à rechercher ce qui est bien ou ce qui n'est pas bien. Et par exemple, pour l'adultère, s'il a été commis comme il convenait, avec telle femme, dans telle circonstance, de telle façon, d'une manière absolue, faire l'une quelconque de ces choses, c'est commettre un crime. Paragraphe 19. C'est comme si on allait croire que dans l'iniquité, dans la lâcheté, dans la débauche, il peut y avoir un milieu, un excès et un défaut. Car alors, il faudrait qu'il y eût un milieu d'excès et de défaut, et un excès d'excès et un défaut de défaut. Paragraphe 20. Mais de même, qu'il n'y a ni excès ni défaut pour le courage et pour la tempérance, parce qu'ici, le milieu est en quelque sorte un extrême, de même, il n'y a plus pour ces actes coupables ni milieu, ni excès, ni défaut. Mais de quelque façon qu'on s'y prenne, on est toujours criminel en les commettant, car il n'est pas possible qu'il y ait un milieu ni pour l'excès ni pour le défaut, pas plus qu'il ne peut y avoir ni excès ni défaut pour le milieu.